Le marathon des mots présente chez mon libraire. Maëlys Adhémar, Graines. La libraire de l'enseigne située sur l'hélice Georges Pompidou nous regardait à travers ses rayonnages, perchée sur un tabouret, lunettes de myope au milieu du nez. Plantée depuis quelques instants devant la vitrine, Anna et moi avons ricané comme des oies blanches, amusées par la couverture d'un livre dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui représentait un homme nu, de dos, dont les fesses grasses débordaient de son corps spongieux. J'avais tout juste 18 ans. J'étais encore ivre de la soirée de la veille. Un jeudi soir étudiant à la Tchaloupa. Un bar étroit et profond, planqué derrière le tribunal d'Albi. Un tripot mal éclairé, rempli de tonneaux et de rugbymen, musculeux, avinés, cherchant toujours le contact avec l'adversaire, les filles ou les coéquipiers. La Tchaloupa était souvent bondée. À marée haute, il fallait s'y frayer un chemin au milieu des corps en transe et des girafes de bière débordantes. On atteignait le bar, maculé d'alcool et de la transpiration de ses frères et sœurs de boissons. La traversée en valait la chandelle. Dans la nuit, les fêtards s'écartaient, se serraient contre les murs, des garçons posaient leurs fesses sur le sol sale, formant une longue chenille aux bras tendus vers le ciel opaque. De toute la force de nos corps brûlants de vivre, on se jetait tête la première sur leurs mains et on se laissait porter par cette chaîne humaine exaltée pour recommencer illico, plonger encore et encore jusqu'à ce que le paquito se meure. Derrière le bar en zinc, le patron projetait un filet d'eau de vie et faisait craquer une allumette. Le comptoir s'enflammait alors sous les hurrahs, des filles montaient sur les tonneaux et dansaient au son des cuivres et percussions d'une musique de banda. Je vénérais comme une dévote les jeudis soirs à la Tchaloupa. Le vendredi à 8h du matin, noceuse défraîchie, je me retrouvais les lèvres pendantes au cours d'histoire de l'antiquité de Monsieur Sambo. Je piquais du nez sur un thermos brûlant, sentant encore dans mes cheveux l'écume de la fête. Nous rions dans nos coudes sous le regard désabusé du vieux professeur pour qui ça ne faisait pas grand-chose. La seconde guerre d'Assic et la colonne Trajane derrière nous, le vendredi s'étirait à l'infini. Nous partions traîner en ville, dans le vieux centre d'Albi, avant qu'il ne soit récuré par son classement UNESCO. Café pas cher, place de cinéma à 3 euros et les boutiques de fringues made in China rythmaient au vendredi. Je ne fréquentais pas les librairies. À peine les musées, davantage la bibliothèque universitaire est gratuite. « On entre ?» m'a demandé Anna devant la porte de la libraire d'Hélice. J'ai cligné des yeux sous le rimmel dégoulinant du jeudi, masque usé par l'incandescence de la nuit. J'ai regardé l'heure. Je devais prendre une douche. Pour nettoyer tout ça. Enlever l'odeur de cigarette qui imprégnait ma chevelure, le tampon de la boîte de nuit visible sur le dos de ma main et les relents de mauvais vin rouge. Je devais prendre une douche pour me laver de tous les péchés du jeudi soir. Rentrer chez mes parents sans aucune trace du sacrilège. Frotter le maquillage, les paillettes sur les yeux, arracher le t-shirt à friolant, traquer le moindre vestige de la luxure. Rentrer purifié de mes fautes, mon impiété, mes faiblesses. La beuverie, la drague, les corps vigoureux, les danses provocantes, la révolte. Déposer mes errements, m'agenouiller devant l'autel, prier, faire pénitence. On y va. 5 minutes. Anna et moi sommes entrées dans la librairie d'Hélice Georges Pompidou avec nos pantalons blancs trop moulants, nos baskets maculées de bière et de crasse du fond du bar. La libraire a écarquillé ses petits yeux globuleux. Son bonjour n'était pas très aimable. Nous lui avons répondu avec beaucoup trop d'entrain et nos gloussements de pucelle. J'ai regardé les tables, les livres d'hommes politiques, les bandeaux rouges, les brochures touristiques. Studieuse, Anna s'est dirigée vers les sciences humaines. Nous devions acheter un livre sur la Mésopotamie sumérienne. Je me suis approchée du rayon littérature sans réfléchir, mal à l'aise, complètement perdue. La dernière fois que j'étais entrée dans une librairie, j'avais 14 ans. À Gaillac, à côté du collège, j'étais allée récupérer des livres commandés par ma mère, des lectures scolaires obligatoires. C'était une librairie indépendante, à la fois chaleureuse et intimidante pour l'adolescente que j'étais. J'en avais fait le tour, le temps que le libraire trouve Germinal et quelques rougons-macquarts du programme. Immédiatement, j'avais été médusée, prise à la gorge par toutes ces images, ces mots écrits sur les couvertures, des mots et des images interdits, mots et images profanatoires. Des corps, des sexes, des destins de femmes libres, de l'histoire inaudible, récits anti-franquistes ou éloges de Simone Veil, des appels à la rébellion. Choquée, aimantée, révulsée, j'avais pris mes Zola et je m'étais enfuie vers le bus scolaire. Nous fréquentions les livres, mais pas les librairies, si ce n'est rarement les enseignes chrétiennes. Nous choisissions nos lectures dans un catalogue rassemblant des maisons d'édition conformes à nos valeurs, c'est-à-dire catholiques traditionnalistes et royalistes. Enfant, j'avais lu un nombre incalculable de fois la saga du prince Éric de Serge d'Alens. Éric, chef de la principauté imaginaire de Swedenborg, vivait de grandes aventures marquées par le scoutisme, la foi, l'amour de la nation et la guerre. Il y avait aussi les vies de saints, Sainte Germaine, l'enfant battu, le bienheureux père de Foucault, mauvais garçon touché par la grâce, Sainte Cécile, la martyre. Nous étions ouverts à certains livres de la bibliothèque verte et de la rose. En grandissant, j'avais fait mes choix dans les étagères bien fournies de mes parents. Jean Raspail, Vladimir Volkov, par exemple. À travers les lignes, je cherchais plus l'ailleurs et l'aventure que la sainteté. Mais je restais dans mon monde. À 18 ans, ma révolte était celle de la fête dans les vignes du Seigneur, des pitreries nocturnes et de la bagatelle, la révolte du corps. Dans l'été précédant ma première rentrée universitaire, j'étais tombée sur un livre de Jean Raspail échoué à l'étal d'un bouquiniste du marché d'Agde. L'identité de l'auteur me permettait de l'acheter sans risquer de commettre un péché d'obscénité. Il coûtait 2 euros et s'appelait « Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie ». Premier électrochoc littéraire. Sur l'immense plage du Cap d'Agde, j'avais lu ce roman de cet écrivain royaliste hissé comme un étendard par l'extrême droite. Raspail, l'auteur du Camp des Saints, ce roman racontant l'invasion d'un peuple venu du Sud, devenu la Bible des tenants du grand remplacement, m'ouvrait les portes d'un nouveau monde qui ne me quitterait plus. La Patagonie. Aux confins de la Terre, au XIXe siècle, vivaient des peuples primitifs et nomades qu'un notaire de Dordogne avait choisi pour sujet en s'intronisant roi d'un état inexistant, colonisé, déchiqueté. Son histoire folle et vraie ressemblait à l'enfant que j'avais été. L'écrivain de mon camp me jetait en pleine face une histoire de liberté. Planté au milieu du rayon littérature, je n'osais pas toucher les livres, les retourner, lire les quatrièmes de couverture, feuilleter, déposer, choisir. La libraire s'est approchée de moi et m'a dit sans sourire « Vous cherchez un livre en particulier ?»« Non, je ne sais pas trop. » « Vous aimez quel genre de littérature ?» J'ai regardé mes chaussures fangeuses et j'ai rougi jusqu'aux oreilles. Je n'ai pas eu la folie de lui dire « Mon style, c'est Jean Raspail ou Philippe de Villiers, vous voyez ?» Tout en pensant à ça, je me suis souvenu des couvertures de livres dans sa vitrine. Un bouquin sur les victimes de Pinochet, une biographie de Che Guevara et même un fascicule commis par le facteur Olivier Besancenot, le type de la Ligue communiste révolutionnaire quand même. J'étais à moitié saoule mais consciente de l'inévitable décalage. Depuis toute petite, quand je me trouvais dans la sphère des païens, j'avais appris à taire une partie de mon monde. Un réflexe de survie pour éviter les moqueries, les regards interloqués ou outrés, les dos tournés. J'ai répondu d'une traite, un peu gênée et un peu fière. J'aime les histoires qui parlent de l'Amérique du Sud, de la Patagonie. La libraire s'est retournée et s'est approchée d'un rayon. Elle m'a montré un roman d'un écrivain chilien, un gros brochet dont les 22 euros m'ont fait grimacer. Elle a continué de parler tout en plongeant sa main dans une enfilade de livres de poche. Je me suis retrouvée avec un ouvrage de Francisco Coloane entre les doigts. El Guanaco. La libraire me causait toujours, Non pas comme Monsieur Sambo s'adressait à l'élève vautré du cours d'histoire de l'Antiquité, ni comme une marchande de vêtements ou un patron de bar. Elle me parlait de Coloan, de ses mots de conteur, de l'île de Chiloé, de son écriture ciselée par le vent du sud, le sang des peuples de ce confin austral, par son propre sang à lui de fils d'un chasseur de baleines et par la navigation sur le golfe des Pennes. Je lui ai dit merci. J'ai payé 6 €. Anna m'a rejoint. Elle s'est acheté un dictionnaire de l'Antiquité. Nous sommes sortis et j'ai serré mon livre contre moi. Mon premier livre. Le seul dont l'auteur n'existait pas dans la bibliothèque familiale. Il n'était pas adoubé. Il était tout petit. El Guanaco de Francisco Coloane parle des peuples du bout du monde. Ses sujets imaginaires du roi Antoine de Tounance, des Fuégiens, des nomades marins semblables aux premiers hommes de l'humanité. Au XIXe siècle, sur leurs îlots humides et inhabitables, ils étaient encore debout. La civilisation les jugea inutiles, voués à disparaître. Les États, les colons, les scientifiques et les missionnaires participèrent directement ou non à leur extermination. En sortant de la librairie des Lys Georges Pompidou, je ne savais pas tout cela. Je ne savais pas que ce livre contenait une graine, celle d'une autre révolte. La graine d'un voyage à l'extrémité de la terre, jusqu'au bout des certitudes inculquées par mon milieu. Une graine, un livre.